Nous avons tous des croyances, des présupposés, des valeurs qui dictent nos vies. Si tu crois que l'argent apporte le bonheur, tu vas apprendre un métier qui te donnera un bon salaire et tu vas t'acheter une belle voiture, une belle maison, tu vas vivre dans le confort, etc., etc. À la longue, tu te rendras compte que ça comble pas. Mais tu agis en fonction de tes croyances. Notre manière de vivre traduit ce que l'on croit. Je me souviens d'un dessin d'Alain Auderset. C'est peut-être un de la première série qu'il a faite. Il y a un homme assis par terre, sur une terre desséchée, toute craquelée. Il est en plein soleil, en plein désert. Il a tellement chaud, il y a le soleil qui frappe, il a un mouchoir sur la tête et puis il s'est fait 4 nœuds. Vous voyez comment, pour faire chapeau de soleil. Et il est assoiffé sur une terre desséchée. Et devant lui, il y a un grand verre d'eau. Et il dit, je crois en l'existence de ce verre d'eau. Malheureusement, je ne suis pas un buveur pratiquant. Cela pose toute la question de notre confession de foi. Qu'est-ce que je crois? Et est-ce que ce que je crois dicte ma vie? Parce que si ce que je crois ne dicte pas ma vie, c'est que je crois pas. C'est que je suis un croyeur, un croyant, une croyante non pratiquante. Ben moi, je me rends compte que ça m'arrive d'être une croyante non pratiquante. Et j'aime pas ça. Mais la parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous donne des directions, la parole de Dieu est vivante. Si on croit, c'est à cause de la parole. Mais la parole nous aide à croire la parole. Il y a 2 semaines, Denis nous a partagé un message sur le psaume 23. Un psaume pour l'été. Un psaume que tout le monde connaît. Nous avions un culte en plein air, dans les pâturages. C'était pas possible de prêcher sur autre chose. Et pendant ce moment-là, le Père nous a tellement fait ressentir son cœur de berger. Pendant toute la journée, pendant la prédication de Denis, et ce que Denis a partagé, il a fait beaucoup de parallèles. Il a vraiment étudié un berger humain et des brebis animales. Qu'est-ce que ce berger humain fait avec ses brebis? Et il y avait le parallèle avec Dieu. Ce matin, on va reprendre ce psaume 23 parce que depuis il y a 2 semaines, j'arrive pas à en sortir. Donc, on va reprendre ce psaume 23, mais on va l'aborder sous un tout autre angle. Je vais pas répéter ce que tu as dit, Denis. Ne t'inquiète pas. Je vais plutôt ajouter. Et j'ai tellement à ajouter qu'il va falloir que je me canalise. Ben, je sais que je ne dois pas tout dire et c'est souvent ma difficulté. Ce texte est tellement riche, toute la parole est tellement riche. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume 23 est une bonne trame de prière. Ce psaume peut être utilisé comme une trame de prière. Ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille cette thématique de la prière et d'utiliser la parole pour prier, de prier la parole. Parce que c'est pas toujours facile de prier. C'est quelque chose qui devrait être tellement naturel. Des fois, on a envie de prier, mais c'est sec. On n'y arrive pas, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi dire. Des fois, on n'a pas envie de prier. C'est plus grave, parce que la prière est une relation avec notre Dieu. Mais comment faire? Comment faire pour passer, pour aller plus loin que cet obstacle? Eh bien, il n'y a pas seulement l'église de réveil et les visiteurs qui sont là aujourd'hui qui ont parfois du mal à prier. Même les disciples de Jésus avaient du mal à prier. Et ils disaient, mais Rabbi, Seigneur, Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus n'a pas dit, quand tu pries, mets-toi à genoux, joins les mains, passe une demi-heure prosterné. Non, il a juste donné une trame. Et il a dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous connaissez la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que la sainteté de ton nom soit honorée, soit respectée. Que dans ma vie, je respecte la sainteté de ton nom. Que tout ce que je fais, tout ce qui sort de ma bouche, honore et respecte la sainteté de ton nom. On peut prier longtemps juste avec ces mots, mais on peut aussi prier longtemps avec ton nom. Vous connaissez des noms du Seigneur? El Shaddai, Dieu Tout-Puissant qui pourvoit. Adonai, l'Éternel. Elohim, Dieu. Yahvé, Adonai, Dieu l'Éternel. Rapha, Rapha, Adonai, Rapha, celui qui guérit, et on peut traduire le grand médecin avec un M majuscule. Adonai, Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Adonai, Nissi, celui qui combat pour nous. Et El Kadosh, l'Éternel qui est saint. Et dans le psaume 23, les premiers mots de David, c'est la proclamation d'un des noms de l'Éternel. L'Éternel, mon berger. Adonai, Roi. L'Éternel, celui qui me fait paître. Celui qui a cette qualification, ce rôle de berger. Pas ce rôle, mais cette action de berger pour ma vie. Voilà un des noms de l'Éternel. Quand vous priez Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, vous pouvez dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, mon berger, celui qui me fait paître, soit sanctifié. Que ton rôle et toutes les œuvres de berger que tu fais en moi soient honorées, que je puisse honorer ton action de berger. Autrement dit, que je sois capable de te suivre. Parce que tu me diriges près des eaux paisibles, parce que tu me conduis dans de verts pâturages, à cause de la justice. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, je fais une parenthèse, déjà là, je voulais pas le dire, parce que je vais trop en dire, mais à un moment donné, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de ton nom. La justice est aussi le nom du Seigneur. Vous pouvez prendre ces mots, vous pouvez prendre ces vérités, vous connaissez tellement de choses. Et vous le mettez en prière. Vous pouvez entrer dans l'adoration parce que Dieu est votre berger. Mais vous pouvez exhorter votre âme. Et vous pouvez aussi demander l'aide du Saint-Esprit pour que ça devienne réalité en chacun d'entre vous. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une affirmation. Ça ne supporte aucune contestation. Il n'y a aucun doute ici dedans, il n'y a aucune supposition, il n'y a pas d'éventualité, c'est un fait. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que l'Éternel est mon berger, c'est comme ça, c'est établi, ça se manifeste jour après jour. David, dans le psaume 23, il fait une confession de foi. Si vous lisez toute la suite, il décline ce que ça veut dire. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, tu ondules ma tête, tu dresses une table devant moi. David fait une confession de foi. Notre manière de vivre traduit ce que l'on croit. Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous croyez? Si quelqu'un vous demande raison de votre foi, est-ce que vous arrivez à dire « Je suis chrétien ?» Oui, ben, il y a plein de chrétiens au bord d'un verre d'eau sur une terre assoiffée qui ne sont pas pratiquants. Qu'est-ce que l'on croit? C'est un bon exercice d'aller se poser cette question-là. J'ai grandi dans l'Église réformée. Et presque à chaque culte, dans la liturgie, on proclamait la confession de foi. On l'appelle aussi le credo, le symbole des apôtres. Parce que dès l'Église primitive, dès les débuts de l'Église, il y a des hérésies qui sont venues, des faux enseignements, des fausses doctrines. Et il a fallu réfléchir, il a fallu reprendre l'Ancien Testament, ensuite rebondir sur ce que Jésus a dit, sur ce que les apôtres ont dit. Il a fallu remettre tout ça ensemble et puis être sûr de bien comprendre pour se dire « Mais nous, on croit ça, 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 mais on ne croit pas ça, ça, ça. » Par exemple, il a fallu déterminer mais qui est le Fils de Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Christ? Eh bien, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Alors qu'il y a des doctrines qui pensent qu'il était que homme, d'autres que Dieu. Enfin, il y a eu plein de doctrines qui mélangeaient toutes choses. Il a fallu une confession de foi. Et en fonction de ce que je crois, je vais vivre. Alors tous les dimanches matins, ou presque, on proclamait le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, le pardon des péchés, la résurrection de la chair, du corps, et la vie éternelle. Amen. Voilà ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Ce que l'on croit dicte notre manière de vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette confession de foi? Je suis obligée de faire court. Mais il y a Dieu qui est venu sur terre en chair, qui s'est donné en sacrifice, qui est mort et qui est ressuscité, le premier-né d'entre les morts, et qui est vivant éternellement, et qui nous a pris avec lui par la foi. Autrement dit, ce que je crois, c'est que j'ai été crucifiée avec Christ, que je suis morte avec Christ, ensevelie avec Christ, que je suis ressuscitée avec Christ, et que si maintenant c'est le cas par la foi et que des choses ont été transformées dans ma vie de tous les jours, dans ma vie spirituelle, un jour, ce corps-là que vous voyez, que je peux sentir, ressuscitera aussi, sera transformé aussi, et j'habiterai éternellement dans la maison de l'Éternel. Je crois la résurrection de la chair et la vie éternelle. Autrement dit, ma vie est dictée par cette confession de foi. Ma vie est dictée parce que je sais que la finalité, le but droit devant moi, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas juste de vivre éternellement. C'est d'être réuni avec mon Seigneur. C'est de retrouver la communion que j'ai perdue à cause de ma nature de péché. Alors, à cause de la foi, j'ai retrouvé cette confession, cette communion, mais pas entièrement. Elle n'est pas totalement accomplie, mais un jour ce sera là. Et Dieu est tellement grand, tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement fidèle, tellement bon, que je ne pourrai que le louer et l'adorer. Et ce ne sera pas une difficulté, ce sera le cœur qui déborde, ce sera le trop-plein du cœur de jeter ma couronne devant lui. C'est ça ce qui est en ligne de mire. Et c'est ça qui doit dicter ma vie. C'est ça ma confession de foi. Et c'est votre confession de foi. David, il a une confession de foi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Il me conduit. Je ne vais pas reprendre tous ces versets un à un. On les a vus il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que fait David? Il est en train de reconnaître que tout lui vient de Dieu. Et c'est la même chose, cette confession de foi, puisqu'elle termine par la vie éternelle. Il a le même point de mire, même si Jésus n'est encore pas venu sur terre à l'heure où il écrit. Il y a encore 1000 ans qui vont s'écouler jusqu'à ce que Jésus vienne sur terre. Mais il a déjà reçu cette révélation et il a attribué à Dieu tout ce qui vient de Dieu. C'est lui qui me fait reposer, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me rassure, c'est lui qui me protège, c'est lui qui me qualifie, qui ouindule ma tête, c'est lui qui dresse une table devant moi en face de mes adversaires, qui se met entre mes adversaires et moi, c'est lui qui combat pour moi. Pourtant, à un moment donné, David parle de lui-même. À un moment donné, au verset 4, il y a quelque chose qu'il s'attribue à lui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette, ton bâton, me rassure. Mais c'est comme si la seule chose que David peut s'attribuer, c'est que tout ce que je suis capable de faire, c'est de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Comme si par lui-même, il peut rien faire de bien. Comme si par lui-même, de toute façon, dans ce monde marqué, ce monde qui est quelque part la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, de toute façon, tout ce qu'il fait par lui-même, eh bien, c'est traverser l'adversité, c'est traverser la maladie, c'est traverser les problèmes avec les gens, des problèmes relationnels, c'est traverser de l'opposition, c'est avoir des problèmes dans sa tête, de se dire, enfin, de batailler avec lui-même, c'est de pécher quand il veut pas pécher. Toutes ces choses-là, ça fait partie de la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. La seule chose qui s'attribue, c'est ça. Ben voilà, moi, ce que j'arrive à faire, c'est ça. Mais, c'est pas « je suis capable de rassurer mon cœur en regardant ta houlette et ton bâton », c'est « ta houlette et ton bâton me rassurent ». Parce que la houlette, c'est quoi? C'est un grand bâton. C'est un grand bâton, vous savez, dans les illustrations, on voit des fois un berger avec un grand bâton et puis le haut du bâton, il tourne un petit peu. Eh bien, ça, c'est la houlette. Il est vraiment haut comme ça, même si le troupeau est très grand. Quand le berger marche devant le troupeau, eh bien, tout le monde voit cette houlette. Tout le monde voit la direction. Ça permet aussi d'aller chercher ceux qui sont un petit peu éloignés du troupeau. Avec la houlette, il peut un petit peu aller les reprendre, les ramener, les rassembler. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David fait une confession de foi. Il dirige sa vie en fonction de cette confession de foi. Vous avez soif? Il y a un verre d'eau à disposition. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce qui dicte ma vie? Qu'est-ce qui me motive? Avec quoi est-ce que je bataille? Parfois, on ne se rend pas compte, mais on bataille avec nos propres forces. On est dans une société où réussir sa vie, c'est réussir sa vie professionnelle, c'est avoir de l'ambition, c'est réussir financièrement, c'est réussir ses relations. Parfois, c'est même des petits projets, des projets beaucoup plus modestes que ça. On a envie de quelque chose. On a envie d'obtenir quelque chose. On a envie de, même de dons spirituels parfois. Parfois on bataille pour obtenir quelque chose. Parce qu'on se dit ça va me combler. Parce qu'on est centré sur nous. J'ai besoin d'eux. Et j'aimerais. Mais si mon focus, si mon attention, c'est mon berger, c'est sa conduite, pour discerner où est-ce qu'il me conduit, qu'est-ce qu'il attend de moi, je sais que pendant toute ma traversée sur terre, il va me donner ce dont j'ai besoin. Plus je vais m'offrir à lui, plus je vais oublier ma propre vie, plus il va me donner ce dont j'ai besoin. Et parfois, je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Je crois qu'une telle chose va me combler. Et en fait, quand Dieu m'en donne une autre, je me rends compte que c'est de ça dont j'avais besoin. Il y a des choses qui sont tellement importantes pour nous qui deviennent dérisoires à nos yeux. Plus le Seigneur nous transforme, plus il nous remplit, plus il se met en communion avec nous. Mais il faut que notre cœur soit d'accord. Il faut qu'on s'abandonne un petit peu. Qu'est-ce que je crois? Et comment est-ce que je mets tout ça en pratique? Il y a deux termes qui m'ont particulièrement interpellée dans ce psaume. C'est « il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice ». Vous le connaissez tellement bien ce psaume. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un mouvement, qu'il y a une marche? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me dirige près des eaux paisibles. Et il y a un objectif, il y a un but. Même s'il me fait reposer dans de verts pâturages, moi, quand j'entends le mot « repos », je me vois coucher, je me dis « enfin ». Chaque soir, quand je vais me coucher, c'est « merci Seigneur pour mon lit ». Juste d'être à l'horizontale, ça fait du bien. Et là, il n'est pas vraiment question de marche. Il n'est pas tellement question de mouvement. Il est juste de s'arrêter, se mettre au repos. On a tous besoin du repos. Mais on peut aussi être dans le repos alors qu'on marche, alors qu'on est en marche. Si tu marches à la suite de ton berger, si tu laisses ton berger te combler, si tu laisses ton berger te désaltérer dans ta parole, si tu essayes de comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Comment ça s'applique à ma vie? Tu entres dans le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce verbe « diriger », il est plutôt rare dans la parole. Dans l'Ancien Testament, on ne le trouve que 10 fois. C'est pas beaucoup, parce que du mouvement, il y en a. On le trouve que 10 fois. Je vous donne quelques exemples, parce que il porte en lui cette notion de repos, cette notion de paix, mais même aussi la notion de prendre soin. Dans Genèse 33, 14, Jacob et Ésaü viennent de se réconcilier. Moi, je dirais de se pseudo-réconcilier parce que ça n'a pas tenu très très longtemps. Toujours est-il que tous les deux, ils se retrouvent, ils se réconcilient et ils vont asseyir. Et Ésaü, il a toute l'armada, il a une armée, il a tout ce qu'il faut et puis il est prêt à embarquer son frère pour lui dire « Allez, viens sur mes montures, on y va !» Et que répond Jacob. Jacob qui est avec ses épouses, ses enfants, ses troupeaux, tout un immense clan qui est avec lui, il répond « Que mon Seigneur, » donc il parle à Ésaü, « que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, » donc il parle de lui, « et moi, je suivrai, » c'est ce même verbe, « je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Jacob, il dit « Moi, je vais aller au rythme des brebis, je vais aller au rythme des troupeaux, au rythme des brebis qui allaitent, elles peuvent pas courir, elles doivent aller lentement, au rythme des enfants qui se fatiguent aussi et qui n'ont pas appris l'endurance, et il faut aller à leur rythme, au rythme de ceux qui débutent dans la foi. » Au rythme de ceux qui ne débutent pas, mais qui ont tellement bataillé qu'ils ont l'impression d'être toujours au début. Au rythme de ceux qui traversent de l'adversité. C'est normal que nous ayons tous un rythme différent pour traverser la vie, pour que notre foi grandisse, pour que nous soyons dirigés vers les eaux paisibles. C'est normal que nous n'ayons pas tous le même rythme. Pour certains, ça va lentement. Pour d'autres, ça va plus vite. Mais le Seigneur sait votre rythme. Que ça puisse vous rassurer. À chacun son rythme. Et peut-être que selon le mandat que vous avez reçu, eh bien, il faut vous faire aller vite. Et il va à votre rythme. Si vous êtes une gazelle, il va aller au rythme de la gazelle. Mais si vous avez reçu un mandat qui demande du temps, ou que vous avez un parcours de vie qui demande du temps de restauration, il le sait. Et il va à ce rythme-là. Le but, c'est de ne pas perdre l'objectif. Qu'est-ce que je crois? Quelle est ma confession de foi? Et j'avance dans cette direction. Si je sais que Dieu pourvoit, alors je proclame que Dieu pourvoit et j'entre là-dedans. Si je sais que je manque de compétences, eh bien, je confesse que Dieu me les donne et j'avance dans cette direction. De toute façon, je manque de compétences puisque tout me vient de lui. Alors c'est vrai, c'est facile à dire et je me suis dit quand je vais dire ça, j'oserai pas regarder du côté de mon mari parce qu'il va se dire « Oh là là, j'espère qu'elle se prêche à elle-même ». Parce que c'est lui qui m'entend, c'est lui qui entend ce qui sort de ma bouche. Vous, vous voyez qu'une petite partie, hein, vous voyez pas tout le combat qu'il y a à la maison quand ça bataille. Mais j'apprends et je me dis « Eh ben tiens, je suis un peu une brebis allaitante ». Je peux pas courir vite parce que je dois aussi nourrir. Puis pour nourrir, il faut que moi j'ai la substance. Donc cette substance, elle prend aussi du temps. Et j'apprends. Voilà ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre vous. Alors je sais pas si vous êtes un enfant, un ado, un adulte, un aîné, si vous êtes une brebis, un agneau, je ne sais pas. Mais faites juste attention parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres versets qui parlent du berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare les brebis des boucs. Ne soyez pas un bouc. Mais le berger, il donne sa vie pour ses brebis. Le berger, il connaît ses brebis par leur nom. Et les brebis connaissent la voix de leur berger. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez ces choses-là? Appliquez-les à votre vie. Un autre verset qui parle de ce verbe diriger, on l'a dans Exode 15-13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. C'est le même verbe qui est utilisé ici pour diriger. À un moment donné, dans la période des rois, il y a des gens qui ont été pris en captivité. Et certains ont voulu profiter d'eux, mais des hommes n'ont pas été d'accord. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent, ils les conduisirent, c'est le même terme, sur des ânes, tous ceux qui étaient fatigués. Ils conduisirent sur des ânes, tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Des captifs qui étaient complètement anéantis, qui n'avaient plus de force, ont été conduits sur des ânes pour arriver à bon port, vers la délivrance. C'est le même terme. Et il y en a encore quelques-uns. Il y a 10 passages qui utilisent ce terme comme le fait de prendre soin, d'aller au rythme, et de mener à bon port. Et un autre terme, c'est conduire, tout simplement, mener. Il me conduit dans les sentiers de la justice, ça veut dire il me mène. Et là, c'est plutôt il me mène d'un point A à un point B. Autrement dit, avec ces deux termes qui sont utilisés, eh bien, c'est comme si on a la direction. Et la direction, on l'a au verset 6. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie sur terre, mais bien plus encore après. Ça, c'est le point B. Il y a la direction. Où est-ce que tu vas? Ta confession de foi t'amène à un endroit précis et elle implique en toi une manière de vivre. Et il y a la manière dont il t'accompagne pour arriver à destination. Et la manière d'accompagner, c'est celle d'un berger aimant qui nourrit, qui protège, qui guérit, qui porte sur les épaules quand c'est nécessaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, mon berger. C'est pas seulement Jésus, bien sûr que c'est Jésus qui s'est incarné et qui a incarné ce berger. Et c'est lui notre grand berger. Le Nouveau Testament en parle. Dora nous avait donné ce verset dans Hébreux 13, les versets 20 et 21, que nous avons le grand berger, que nous bénéficions de son alliance qu'il a scellée par son sang. Mais c'est déjà l'Éternel. Dès le départ, notre berger, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Quand il me dirige, quand il me fait aller d'un point A vers un point B, et qu'il me montre le comment faire, son Saint-Esprit est en moi. On l'avait vu il y a quelques semaines. Je peux à chaque instant m'arrêter, prendre du recul, me rappeler que je suis le temple, l'habitation du Saint-Esprit, et lui dire, Saint-Esprit, où est-ce que je vais? Fais-moi ressentir la volonté du Père. Fais-moi ressentir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Fais-moi ressentir quelle est ta volonté pour que je sache comment je dois faire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, mon berger, soit sanctifié. Je te demande de me venir en aide par ton Saint-Esprit en Jésus-Christ pour que je puisse marcher dans tes voies. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie toujours ta houlette et ton bâton. Que je voie toujours la direction, que ma confession de foi soit affermie dans mon cœur et dans mes pensées. Montre-moi quand je m'égare, montre-moi quand je suis centrée sur moi-même, sur mes besoins, mes problèmes. Montre-moi quand je suis égocentrique, égocentrée. Montre-moi quand je m'inquiète pour ma propre vie alors que toi, tu as déjà pourvu depuis si longtemps. Montre-moi comment recevoir ces choses pour que ma vie t'honore, pour que ma vie te glorifie. Que ton action de berger soit honorée, soit glorifiée dans ma vie. Si je reprends ce verset dans Hébreux 13, les versets 20 et 21, « Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. » Moi, je vous invite à vous replonger dans ces deux versets. Nous sommes au bénéfice d'une alliance parce que notre berger s'est offert en sacrifice. Mais nous sommes au bénéfice de cette alliance, sous cette alliance, pour quelque chose. Pour bénéficier de cette alliance, il faut avoir la foi, une confession de foi. Mais il faut aussi, pour rester dans cette alliance, il faut l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à sa direction. Sa parole nous dit des choses. Et là, il nous dit, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Nous sommes tous capables de bonnes œuvres. Ça peut être des œuvres concrètes, ça peut être la prière, ça peut être une parole à propos, une parole de bénédiction, des services les uns pour les autres. Les bonnes œuvres, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tellement vaste. Quand je prie que ton nom, mon berger, soit sanctifié, je demande au Seigneur de m'aider à accomplir de bonnes œuvres, pas pour ma volonté, mais pour ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous donne ses révélations, que le Saint-Esprit nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance qui nous fasse saisir ces vérités. Que ce soit plus, pas seulement des choses où on se dit « mais oui, je sais ». Non. Plongez-vous dans ces textes. Implorez le Seigneur qui vous donne ses révélations. Et moi, pour ma vie de tous les jours, comment ça doit se traduire? Et quand vous avez du mal à prier, prenez cette trame que le Seigneur nous a donnée. Vous n'avez pas besoin de dire toute la trame. Si vous prenez vraiment le temps de prendre cette première phrase, vous en avez pour un bon moment. Si vous prenez toutes les phrases, vous y passez la journée. Vous manquerez jamais d'inspiration. Je vous ai donné juste des bribes. Mais demandez au Saint-Esprit qui vous aide à aller plus avant. Et que nous soyons fortifiés, encouragés les uns avec les autres. Nous avons un berger qui connaît mieux que nous-mêmes nos besoins. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Ça, c'est une application. Vous la connaissez, la parole? Je vous apprends rien. Alors, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Seigneur, tu es tellement bon. Seigneur Jésus, tu es notre berger, notre grand berger. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta présence maintenant et ton Saint-Esprit est dans nos cœurs. Nous sommes tous remplis de ton Esprit. Ton Esprit nous revêt. Il est sur nous, il nous couvre. Merci Père parce que ton regard est posé sur chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui est à côté. Tous sont tellement précieux à tes yeux. Jésus, tu as payé le prix fort pour chacun d'entre nous, pour chacun qui confesse ton nom, pour chacun qui te reçoit, parce que tu es grâce. Je te demande maintenant, par la puissance de ton esprit, de visiter les cœurs. Visite les cœurs qui sont assoiffés. Visite ces cœurs qui sont assis sur une terre desséchée et qui n'arrivent pas à saisir ce verre d'eau, qui se demandent mais comment faire pour prendre ce verre? Comment faire pour être un croyant pratiquant? Pour être un buveur pratiquant? Seigneur, touche les cœurs maintenant. Parle à l'âme de quelqu'un, visite encore.